Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste. Une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin et présentée par Guy Bruy. Emmanuel Perreux, bonjour, puisque vous êtes aujourd'hui notre invité. Vous êtes magistrate, présidente du syndicat de la magistrature. Et si nous vous avons invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, bien qu'il y ait un nombre considérable de sujets sur lesquels nous aurions envie de débattre avec vous, de la réforme du juge d'instruction à la révision de la carte judiciaire, à laquelle nous avons d'ailleurs consacré l'émission du mois de juin avec Isabelle Régui, en passant par la rétention de sûreté et en gros l'indépendance de la justice, c'est de l'affaire de Tarnac que nous parlerons aujourd'hui avec vous, mu par notre fibre rationaliste et républicaine, si je puis dire. Je rappelle brièvement les faits. Des jeunes gens de gauche, depuis une vingtaine d'années, anime un collectif qui s'appelle Tikkun, ce qui en hébreu signifie rédemption, réparation, autour d'une revue éditée par Eric Hazan, l'éditeur d'art notamment bien connu. Le Tikkun prend le nom de Comité Invisible et certains d'entre ces jeunes gens s'installent sur le plateau de Mille Vaches à Tarnac, en Corrèze, dans une ferme. Julien Coupa et sa compagne Idlune Lévy-Guéant ouvrent un magasin général, c'est-à-dire un bar-épicerie, restaurant. Tout cela ne pose aucun problème jusqu'à ce qu'un conseiller de Nicolas Sarkozy, président de la République, Alain Boer, achète des exemplaires de L'insurrection qui vient. Il alerte la SDAT, c'est-à-dire la sous-direction antiterroriste, en mettant en rapport la communauté de Tarnac, qui fait l'objet d'une surveillance rapprochée, et les sabotages des TGV de la SNCF. C'est là que les choses changent et se gâtent, si je puis dire, et le travail sur les mots est ici important, car le comité invisible devient, sous la plume du SDAT, la cellule invisible. Et ce groupe de jeunes gens de la gauche anticonsumériste, adepte du philosophe Giorgio Agamben, devient un groupe de terroristes. Or, le terme terroriste renvoie, dans le vocabulaire contemporain, à des réalités diverses et sensiblement différentes. Il y a le terrorisme purement individuel, le terrorisme de groupes minoritaires sans base sociale ou base de masse, le terrorisme de résistance à une occupation, le terrorisme de groupes organisés appuyés par une base nationaliste forte, le terrorisme d'État, qu'il ne faut pas oublier, etc. Et l'usage qui est fait du mot dans le cadre actuel de notre politique sécuritaire est volontairement, peut-on penser, obscurantiste. De ces glissements sémantiques, nous voudrions parler aujourd'hui en analysant un peu cette affaire Tarnac et son instrumentalisation politique. Pourriez-vous donc nous dire, Emmanuel Perreux, ce qui s'est passé dans cette arrestation du point de vue du droit ? L'incarcération de Julien Coupa et d'Idelune Lévy, ainsi que celle d'autres membres de leur communauté à la mi-novembre, sans preuve connue, cette incarcération prolongée en détention provisoire, ce classement de DPS, détenus particulièrement surveillés, sont-ils autant de dysfonctionnements de la justice ? Et cette affaire n'est-elle pas fortement influencée par la circulaire datée du 13 juin 2008 qui demande au parquet d'apporter une attention particulière à tout fait pouvant relever de la mouvance anarcho-autonome ?
D'abord, bonjour, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ce qu'il est important de dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, dans cette affaire de Tarnac, hein, si commentée, nous sommes dans le cadre d'une instruction judiciaire. C'est donc à la justice de déterminer s'il y a des coupables. La détention provisoire en elle-même n'est pas une preuve de culpabilité. Nous sommes sous le régime de la présomption d'innocence. Ce qui pose question et mérite véritablement un débat de société dans cette affaire, c'est la qualification de terrorisme qui a été appliquée à un acte de dégradation grave du réseau SNCF qui a entraîné visiblement et selon la SNCF un préjudice considérable. Pourquoi je dis ça ? Parce que en droit français, vous avez parfaitement la possibilité de qualifier cet acte de dégradation grave, voire commis en bande organisée. C'est déjà un délit extrêmement grave, au sens en tout cas où l'entend notre code pénal. Donc cette qualification de terrorisme vient s'ajouter, et c'est là que nous, en tant que syndicat de magistrats, nous nous interrogeons. Pourquoi ? Parce que quelques mois avant cette arrestation, donc de mi-novembre, le ministère de la Justice a émis une circulaire qu'elle a distribuée dans tous les parquets en leur demandant d'être particulièrement attentifs à des actions pénalement répréhensibles qui seraient commises par ce qu'elle qualifie de mouvements anarcho-autonomes. Alors on connaît bien les groupes terroristes, on connaît bien l'histoire politique de notre pays et des pays qui nous environnent, mais la mouvance anarcho-autonome, c'était une nouveauté, en tout cas dans une définition politique, d'un positionnement politique. Et finalement, n'est-ce pas une notion fourre-tout qui permet de qualifier n'importe quel groupe, un tant soit peu organisé, un tant soit peu militant, et qui ne se retrouve dans aucun parti politique, dans aucune organisation syndicale et dans aucune association militante. Donc mouvance anarcho-autonome, et c'est là que l'affaire de Tarnac est illustrative finalement d'une certaine dérive, puisque on qualifie immédiatement ces jeunes soupçonnés d'avoir commis des dégradations, d'être dans cette mouvance anarcho-autonome. Sur quelle base ? Alors ça, nous le verrons. Hein. Vous savez qu'en France, il existe un secret de l'instruction, et en tant que magistrat, je le respecte infiniment, mais ce qu'il en est paru pour l'instant, et ce qu'on en sait pour l'instant par la presse, c'est avant tout basé sur un mode de vie, sur la participation à des manifestations légales, hein, ces manifestations étaient légales, bref, une certaine dérive de la liberté de penser, de la liberté de manifester, de la liberté de s'opposer.
Comment, en droit français, qualifie-t-on, définit-on le terrorisme ?
Alors, justement, je crois que le problème central de cette affaire, il est là. C'est que notre code pénal français donne au terrorisme une définition très large. C'est un acte, une infraction, qui trouble gravement l'ordre public, jusque-là, tout le monde peut comprendre, par la terreur. Là, on voit bien à quoi ça fait référence. Hein. Effectivement, quand on pose une bombe dans un supermarché qui a des centaines de blessés, des morts, on voit bien qu'on est effectivement dans quelque chose qui s'apparente à la terreur. Mais la définition française du terrorisme, c'est aussi l'intimidation. Et qu'est-ce que veut dire l'intimidation ? Ça peut aller très loin, hein, une mesure d'intimidation. Très récemment, un juge antiterroriste qui est très connu, hein, qui est Monsieur Thiel, hein, donc qui travaille dans ces matières, a donné une interview dans un journal national, un quotidien national, et il s'inquiétait, hein, de cette qualification très large possible, hein, du terrorisme au travers ce mot intimidation. Et il citait comme exemple des ouvriers qui, à la suite de l'annonce d'une délocalisation de leur usine, avait jeté de l'acide sulfurique dans la rivière voisine. Ça aurait pu, finalement, être classé comme un acte de terrorisme. Donc on voit bien, finalement, que dans cette volonté de retenir la qualification terroriste, il y a avant tout, au départ, une volonté politique. Donc dans l'affaire de Tarnac, la question que nous pouvons nous poser, nous, en tant que citoyens, en tant que défenseurs aussi, hein, des libertés individuelles, c'est la question de savoir s'il n'y a pas derrière ce recours à la qualification de terrorisme une volonté, en fait, d'attiser la peur de nos concitoyens pour mieux nous faire craindre une menace terroriste et mieux nous faire accepter un certain nombre de restrictions à nos libertés individuelles au nom du principe du droit à la sécurité, au nom du principe de précaution.
Oui, parce que je crois qu'il y a la lutte contre le terrorisme, les menaces terroristes, on peut la penser tout à fait légitime, mais j'imagine qu'elle se fait beaucoup plus efficacement par des réseaux secrets qui en ont la responsabilité et qui ne donnent pas une publicité comme il est fait dans cette affaire.
Absolument. Je crois qu'il est nécessaire pour un pays et pour toutes les démocraties de se doter d'un arsenal de lutte contre le terrorisme. C'est bien évident, loin de nous, l'idée de contester cela. Ce qui nous inquiète, c'est justement de quelque part de banaliser la question du terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas et ça ne doit pas devenir la pénalisation du mouvement social. Parce que finalement, à partir du moment où certains se réunissent ensemble pour contester des dispositifs gouvernementaux, des politiques publiques ou des phénomènes sociaux avec lesquels ils ne sont pas d'accord, on pourrait très vite dériver sur une infraction de terrorisme. Et ça, je crois qu'il faut alerter nos concitoyens sur ce risque de dérive pour que finalement le débat existe. Hein, je crois qu'il est important que nos concitoyens puissent finalement s'approprier les débats qui sont pas juste des débats théoriques, qui sont pas juste des débats de juristes et qui engagent finalement notre société vers l'avenir qu'elle se construit. Est-ce que nous voulons, au nom du tout sécuritaire, au nom de d'une protection illusoire d'ailleurs, intégrale, parce que finalement, quel État garantit totalement la sécurité de ses concitoyens? Peut-être certaines dictatures, mais dans nos démocraties, il faut accepter un certain risque pour garantir ce qui est fondamental pour nous, ce sont nos libertés. Et nos libertés, elles sont à la fois sociales, elles sont individuelles, elles sont publiques.
Oui, je repensais il y a 2 ans à peu près, un garçon à la gare Saint-Lazare, je crois, avait balancé du haut d'une galerie un parpaing sur les gens qui étaient au-dessous. On aurait pu le qualifier terroriste. Et autant que je sache, ça n'a pas été fait.
Il faut quand même que le trouble à l'ordre public soit grave. Hein. Il y a quand même cette notion de gravité de trouble à l'ordre public. Donc, quelque part, ça suppose une action concertée. Hein. Mais, encore une fois, tout groupe qui se réunit pour mener une action concertée, susceptible de gravement troubler l'ordre public, je vous dis, combien de manifestations d'agriculteurs, je pense à eux, parce que souvent, on envoie des images... Hein, très révélatrice d'actions un peu choc qui troublent gravement l'ordre public. Est-ce que demain, on n'aura pas la tentation finalement pour empêcher ce type de manifestation de recourir à des qualifications très dissuasives comme celle du terrorisme? Est-ce que le fait de bloquer complètement la circulation, hein, des poids lourds le font parfois pour manifester, est-ce que c'est un trouble grave à l'ordre public puisque la France est bloquée? C'est une action concertée, c'est une action d'intimidation. Est-ce que demain, elle ne pourrait pas également recevoir une qualification de terrorisme?
Et Julien Coupa n'a pas été remis en liberté en même temps que les autres membres de la communauté, sa compagne non plus. Le parquet a déposé un référé détention, ce qui a été défini, je crois, par la loi Perben 1 de 2002. Alors, pourriez-vous nous expliquer ces procédures?
Écoutez, effectivement, ce référé détention, c'est une nouveauté dans notre droit. Il date d'une loi de septembre 2002 qui marque un peu... Il y avait eu une loi précédente, hein, mais c'est un peu le point de départ de toutes ces lois qui se sont accumulées ces dernières années et qui ont véritablement une vocation à restreindre le champ des libertés publiques au nom du principe de précaution, au nom de la sécurité de nos concitoyens. Alors, le référé détention, c'est une arme aujourd'hui entre les mains du parquet qui est de plus en plus utilisée. Je crois qu'il faut en faire le constat. C'est-à-dire que finalement, le principe de la liberté ne s'applique pas. Encore faut-il que le parquet soit d'accord et qu'il n'ait pas déposé ce fameux référé détention. Alors, cet arsenal juridique, hein, de moyens de plus en plus coercitifs qui portent atteinte finalement aux grands principes de notre droit, aux grands principes de notre justice, hein, depuis globalement la Révolution française qui était basée sur, je dirais, des principes humanistes de respect des libertés individuelles, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, et puis surtout le principe finalement que l'homme est responsable de ses actes et que il en répond devant la justice. Ça, c'est un principe éminemment important. Aujourd'hui, on constate au travers de toutes ces lois qui ont été votées ces dernières années que finalement on remet en cause ces principes fondamentaux très humanistes qui nous guidaient tous hein, dans notre fonctionnement en tant qu'individu au sein de la société. Et au nom du principe de précaution, on institue des lois dérogatoires. Je pense bien évidemment à la rétention de sûreté. Hein. Alors aujourd'hui, vous pourrez être détenu parce que, certes, vous avez un jour dans votre vie commis un crime, mais vous avez payé pour ce crime, vous avez effectué votre peine. Et au nom du principe de précaution, parce que la société estime que vous pouvez être dangereux, on va vous maintenir comme ça en détention, sans limitation de durée. Ça peut être pour toute votre vie. Et on a des exemples à l'étranger où ces centres de rétention, qui sont une autre forme de la prison, deviennent des pourrissoirs. Hein. C'est une autre forme de mort. Celle-là, elle n'est pas physique, elle est sociale. Bref, nous avons un arsenal juridique qui bouleverse profondément, je dirais, les principes fondateurs de notre démocratie, de notre état de droit, qui mettaient la liberté, je dirais, comme le premier des principes à défendre. Aujourd'hui, au nom de la sécurité, on accepte de restreindre nos libertés.
Donc nous avons le choix entre une sécurité qui nous prive de notre liberté et une liberté qui doit accepter une part de non-sécurité.
Exactement.
Je vais terminer en vous demandant en deux mots de répondre à une question que Emmanuel, aujourd'hui absente, aime beaucoup poser. Êtes-vous rationaliste et à quoi ça peut servir ?
Écoutez, si être rationaliste, c'est se référer à la raison, alors je suis rationaliste. Je crois à la raison. Je crois surtout à la vertu de la parole, de l'échange. Je crois que par l'expression de nos pensées, hein, par nos mots, par ce qu'on échange, on peut convaincre l'autre et on peut avancer dans une société pacifiée. Hein, et je crois que, en tout cas à titre personnel, je tiens beaucoup à cette idée que la parole, la raison doit toujours primer sur l'émotionnel qui est extrêmement dangereux. Ne nous fions pas en premier lieu à nos émotions. Il n'est pas question de les refouler, il est question en tout cas d'essayer de les analyser.
Emmanuel Perreux, je vous remercie de toutes ces explications extrêmement précises que vous nous avez apportées. Je rappelle à nos auditeurs que notre émission peut être réécoutée sur le site de l'Union rationaliste pendant une semaine. Et je remercie Brigitte Mazir qui, par sa compétence technique, a facilité la réalisation de cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.